Je pense que quand même notre débat sur l'immigration gagnera en maturité le jour où on cessera d'être pour ou contre. Quand vous observez qu'un quart de la population est soit immigrée, soit enfant d'immigrés, aussitôt ça fait qu'un certain nombre de problèmes s'évaporent. L'immigration s'est maintenant banalisée, elle est devenue une composante ordinaire de la société, il va falloir qu'on s'y habitue. Par exemple, il faut intégrer le fait que l'Europe, et notamment l'Union européenne, proportionnellement, actuellement, et c'était déjà avant le cas, avant la crise de 2015-2016, nous accueillons proportionnellement plus de migrants que les États-Unis.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez maintenant autour de cette grande table. Deuxième partie, avant de retrouver comme un jeudi sur deux, le dernier rendez-vous du médiateur de la saison. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, de l'Aquarius aux cages américaines, secourir ou repousser le retour de la question humanitaire par et dans la crise migratoire. Avec notre invité Ronny Broman, professeur associé à Sciences Po, ancien président de MSF, auteur de La diplomatie de l'ingérence et cette année de Guerres humanitaires, mensonges et intox chez Textuel, ainsi que d'un que sais-je qui vient de paraître au PUF, sur la médecine humanitaire. Au lendemain de la Journée mondiale des réfugiés, état des lieux ensemble de la crise migratoire en Europe et dans le monde, de la crispation des États et d'un humanitaire qui semble partir à la dérive, ballotté par des forces contraires. Bonjour Ronny Broman.
Bonjour.
C'est vrai que le travail des ONG semble de plus en plus compliqué, voire stigmatisé. En Hongrie, le vote hier d'une loi interdisant aux ONG de venir en aide aux migrants, l'Italie et Malte qui interdisent l'accès à leurs côtes aux bateaux des ONG. Comment travailler aujourd'hui ?
D'abord, on peut travailler, j'y reviendrai, mais je suis bien d'accord avec vous sur le fait que des vents mauvais soufflent, que par exemple la criminalisation de la solidarité en Hongrie est maintenant un fait établi, qu'en France, avec la loi asile-migration, c'est le chemin que nous prenons. On n'est pas encore, heureusement, au niveau de ce qui se passe en Hongrie, mais c'est tout de même une dynamique préoccupante que l'on voit. En Italie, après s'en être pris aux migrants en provenance de Libye, Matteo Salvini annonce que ce sont les Roms qui vont payer maintenant, alors les Roms italiens ou les Roms non italiens. Enfin, il y a une chasse à l'étranger, une chasse aux faciès et des délits de solidarité qui sont de plus en plus communément acceptés, qui sont extrêmement préoccupants. Ça, c'est l'un des aspects de la question et je suis en effet inquiet de ce qui se passe en tant que citoyen, d'ailleurs plus qu'en tant que humanitaire, membre de Médecins Sans Frontières, enfin en tout cas à parts égales pour les deux. Mais il faut aussi avoir en tête, et c'est beaucoup moins bruyant mais ça n'est pas moins présent, tout ce qui relève de manifestations spontanées ou organisées de solidarité, que ce soit des villes par exemple qui avaient proposé à l'Aquarius de pouvoir aborder, comme Naples, Palerme, en Sicile, là où précisément arrivent de très nombreux migrants qui viennent s'échouer dans le port, mais également en Espagne. Et en France, je le vois à travers les ONG, Médecins Sans Frontières comme d'autres, je ne parle pas de l'action là des ONG, c'est leur, d'une certaine manière elles existent pour ça, et on serait bien étonné qu'elles ne fassent pas leur travail. Mais les réseaux qu'elles peuvent se donner, les soutiens qu'elles rencontrent de la part de la population, y compris d'ailleurs parfois après des moments un peu difficiles, je pense au centre d'accueil et d'orientation ou au centre de résidence qui sont ouverts ici et là dans le pays, qui parfois se heurtent à des résistances de la part du conseil municipal, du maire, d'une partie de la population, et qui pratiquement sans aucune exception, deviennent des succès après quelques mois. Lorsque finalement ce ne sont plus des visages, enfin des ensembles anonymes, des masses vaguement menaçantes, mais des visages, des histoires individuelles, des regards, des paroles, et donc quelque chose de beaucoup plus individualisé. Des êtres humains qui finalement ne sont pas une menace, mais qui sont à la recherche de quelque chose de mieux, de parfaitement compréhensible. Donc ce sont les deux visages de la situation. Je pense qu'il ne faut perdre de vue aucun des deux.
Deux visages, vents contraires. Et c'est effectivement dans cette relation et ces échanges verbaux assez tendus entre l'Italie et l'Espagne actuellement qu'on peut avoir une image, un écho de ce qui se joue au sommet de l'Europe. D'un côté, cette leçon de solidarité donnée par l'Espagne qui accueille l'Aquarius et ses 629 passagers à Valence après qu'ils aient été refoulés des côtes italiennes et maltaises. De l'autre côté, la surenchère italienne avec Matteo Salvini qui a aussi suggéré à Madrid d'accueillir dans la foulée les quatre prochains bateaux secourus au large de Libye, qui serait comme une séance de rattrapage, selon lui, après les manquements des dernières années de la part de ce voisin européen. On sent bien ces tensions. Est-ce que vous pensez qu'au niveau européen, l'Europe peut se relever de ces divisions ?
Tout dépend de ce que l'on appelle l'Europe. D'abord, avant de le penser, je le souhaite. C'est à peu près tout ce que je peux dire avec une réelle certitude. Pour le reste, c'est de la spéculation. Mais il est évident qu'une partie de l'Europe, je pense à la Hongrie, à la Pologne, à la Tchéquie, à la Slovaquie, cette partie-là de l'Europe totalement crispée, totalement raidie, je dirais trumpisée d'une certaine manière, ne peut pas être un point d'appui pour ce genre de choses.
Alors je vais reformuler ma question, René Broman. À un an de l'élection européenne, est-ce que cette question, cette crise migratoire, cette question migratoire et celle de l'humanitaire qui en est le pendant, peut encore être étudiée et traitée rationnellement, selon vous, dans les cénacles européens, ou est-ce qu'elle est condamnée à être instrumentalisée pour plaire à nos opinions publiques ?
Aujourd'hui, rien ne le laisse penser. Aujourd'hui, ce n'est pas la rationalité, ce n'est pas un esprit d'accueil et de construction qui préside aux réactions, c'est plutôt les jeux pervers sur la peur, l'émotion, l'identité, enfin des choses beaucoup plus crispées, beaucoup plus fermées. Mais enfin, il n'est pas interdit d'espérer que un regard nouveau soit posé sur la question, que la question on n'oppose pas systématiquement migration et chômage de masse, identité de l'un contre identité des autres, comme si c'était des ensembles figés qui ne pouvaient pas être combinés. On a à l'évidence besoin d'immigration, tous les économistes à l'échelle européenne le disent, le réaffirment, il y a des emplois non pourvus, il y a des gens qui recherchent un emploi, il y a besoin aussi d'une augmentation de la mobilité, les Européens sont eux-mêmes très mobiles, il y a 100 000 Français qui partent chaque année vers diverses destinations, une partie reviennent, d'autres non, exactement comme des migrants. Qu'ils ne sont pas. Eux, on les appelle des expatriés. Le vocabulaire est lui aussi très significatif. D'un côté des clandestins, de l'autre côté des migrants, de l'autre côté des expatriés. Enfin, on peut espérer que la voie de la raison qui permet d'organiser la mobilité et non plus de fermer le continent européen comme une espèce de forteresse murée, on peut espérer que ce discours finira par prévaloir, parce que c'est aussi celui de la raison et de l'intérêt pour l'Europe. Ça n'est pas un discours humanitaire en lui-même.
Alors, on va en revenir à l'Europe avec Camille Magnard. Vous dites aujourd'hui, il ne faut pas tomber dans l'hystérie, parce que l'hystérie va rendre tous ces enjeux pourtant cruciaux totalement inaudibles. Et ça serait le mauvais penchant dans lequel basculer. Si on part juste voir du côté des États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi Donald Trump a fait marche arrière sur cette question notamment de la séparation des enfants avec leur famille? Est-ce que là on a un exemple d'opinion publique à un moment qui pèse aussi de lobby, peut-être aussi de groupes d'intérêts, et qui permet de faire basculer la décision de garde-fous qui peuvent sembler encourageants?
C'est à vrai dire la question que je me posais, puisque hier encore, enfin aux petites heures de la matinée, il n'était pas question qu'il recule, et puis on apprend ensuite que finalement il signe le décret en se démentant lui-même, hein, puisqu'il présentait qu'il ne pouvait pas le faire, que c'était une loi des démocrates. Enfin, il y a plusieurs démentis emboîtés les uns dans les autres dans ce changement de position de Trump qui sont assez déconcertants. Mais cette espèce de psychopathe immature échappe sans doute au cadre rationnel qu'on pourrait chercher à appliquer au président de la première puissance mondiale. Donc, je ne sais pas que répondre à votre question. Ce que je vois, en tout cas, c'est que ce décret signé n'est pas finalement totalement un recul du point de vue des gens concernés, parce que la plupart des enfants qui ont été séparés de leur famille ne seront pas réunis, tout simplement parce que c'est impossible. Ce sont des administrations séparées, les enfants sont perdus, les parents ne savent pas où ils sont, les administrations ne sont pas capables de les repérer.
Le mal est
fait. C'est une situation affreuse, c'est une situation atroce. Le mal est fait et la brutalité inhumaine d'un pouvoir apparaît là dans toute sa splendeur noire. C'est vraiment épouvantable. Enfin, en tout cas, on voit que l'opinion publique, les opinions publiques, même les plus dures, les plus identitaires, les plus crispées, peuvent avoir tout de même des moments d'ébranlement et que l'humanité n'est pas entièrement perdue là. Donc voyons aussi la chose d'un point de vue légèrement positif. Il s'est passé quand même quelque chose de bien, même si, encore une fois, pour les gens directement concernés, la plupart d'entre eux, en tout cas, ça ne va pas changer grand-chose.
Relayé par des forces politiques démocrates. Camille Magnin.
Et républicaine.
Et républicaine, bien sûr.
Alors, Ronnie Broman, vous parlez d'espoir de voir l'Europe revenir à la raison sur ces questions-là. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on peut avoir d'être au milieu d'un livre d'histoire au chapitre des différentes étapes qui ont mené l'Europe à sa dissolution dans, justement, ces questions migratoires, avec toutes les fragilisations que ça a pu amener au niveau politique, au niveau de la construction du dialogue européen?
Oui, là encore, c'est en effet une réflexion que je me fais, une question que je me pose. À quoi ressemblera le chapitre de l'histoire de l'Europe consacré à notre période actuelle dans 20 ou 30
place,
ans
forcément.
Quelle place aura l'Aquarius, événement déclenchant susceptible de provoquer une prise de conscience, ou au contraire, moment d'une crispation généralisée et finalement de la victoire de l'extrême droite sur les forces modérées? Parce que le problème que l'on constate aujourd'hui, c'est l'alignement progressif de la droite sur l'extrême droite au nom même de la lutte contre les extrémismes, de l'intériorisation des discours extrémistes dans les partis modérés du spectre politique. Donc en effet, c'est extrêmement inquiétant, mais évidemment, moi je n'ai pas de réponse. Je veux simplement me cramponner à l'idée d'abord qu'il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas céder. L'ouverture démocratique, des valeurs que l'Europe se targue d'avoir produites, qu'elle cherche à universaliser et qu'elle ne peut pas d'un seul coup piétiner ou en tout cas leur tourner le dos comme ça. Donc se cramponner à cela, c'est extrêmement important, et se cramponner aussi à l'idée que le futur n'est pas déterminé, que le futur n'est pas entièrement inscrit dans le présent, qu'il a sa part d'incertitude, que des événements, des moments, des discours, des personnalités peuvent jouer un rôle dans l'évolution, et donc qu'il faut garder un minimum de confiance dans cette possibilité.
Quand l'Europe a-t-elle loupé le coche? A-t-elle manqué sa possible cohésion? Diriez-vous, comme l'historien Patrick Boucheron, que ce qui a manqué à l'Europe, c'est un certain rapport à sa grandeur? On l'écoute.
Ce qui a manqué à l'Europe, c'est effectivement un certain rapport à sa grandeur. C'est-à-dire que le legs le plus précieux de la culture européenne, c'est son intranquillité. C'est-à-dire, c'est la certitude, effectivement, qu'elle est fragile lorsqu'elle conquiert. Et que ce n'est pas, effectivement, par l'occidentalisation du monde que l'on s'impose, mais au contraire, par ces valeurs universelles qui sont des valeurs critiques. On dit toujours, qu'est-ce que c'est désespérant? Vous voulez nous désespérer, vous voulez nous décourager avec l'histoire de la décolonisation, avec l'histoire... Mais c'est formidable, l'histoire de la décolonisation. Des intellectuels, des femmes et des hommes qui s'emparent de valeurs universelles pour les retourner contre un système de domination, c'est follement entraînant. C'est une histoire qui est encourageante.
Voilà, alors qu'on parle de chiffres, de quotas, de répartition, est-ce qu'il ne faudrait pas remettre aussi sur la table la question des valeurs, de nos valeurs communes, Ronnie Broman?
Vous savez, je ne suis pas sûr d'être tout à fait d'accord avec Patrick Boucheron, que j'admire beaucoup par ailleurs, parce que il me semble que l'exhibition de valeurs et la proclamation de leur universalité est toujours une arme à double, voire à triple tranchant. Donc moi par exemple, je ne crois pas à je crois à l'existence de sentiments moraux universels, et je ne crois pas à l'existence de valeurs universelles. Il y a universellement des valeurs. Toutes les sociétés produisent des valeurs. Ça, c'est absolument. Donc, ce qui est incontestable, c'est qu'il existe une universalité de la production de valeurs. En revanche, le contenu des valeurs qui sont produites, elles, ne coïncident pas d'endroit en endroit. Et c'est pour ça que je suis plutôt enclin à suivre certains philosophes, certains penseurs qui parlent de sentiments moraux universels. Et finalement, c'est aussi de cela que l'on parle. Quand on voit les réactions américaines, cette opinion publique qui réagit donc à cette injustice, à ce mal qui consiste en la séparation d'enfants avec leurs parents. Là, il s'agit pas d'une valeur, parce que les valeurs de la famille pourraient être au contraire, utilisées contre ça. Ah. Il s'agit du sentiment que c'est indécent, que ça ne se fait pas, que quelque chose là dans notre humanité commune se rompt. C'est en amont, d'une certaine manière, d'un discours élaboré sur ce que sont des valeurs, ce que c'est l'universel et comment les deux se combinent. Et ces sentiments moraux, donc cette aversion à ce qui est profondément injuste et cette capacité de regarder le monde par les yeux d'autrui, c'est ça que j'appelle des sentiments moraux, eh bien, c'est cela qui, je pense, est absolument universel. Donc, je me méfierais tout de même du discours des valeurs.
Alors, la réforme du règlement de Dublin, qui, dans les grandes lignes, estime qu'il est du ressort du pays où le réfugié a posé un premier pied, est entré, en gros, dans l'Union européenne, d'examiner sa situation. Pas d'accord au dernier rendez-vous de nos dirigeants le 5 juin dernier. Nouvelle discussion prévue le 28. Ça semblerait plutôt dans l'impasse jusqu'ici. L'Italie, qui est opposée aux propositions de la présidence bulgare en la matière et qui boycotte les discussions. Notre démographe François Héran du Collège de France, qu'on entendait en ouverture de l'émission, plaide lui pour un compromis entre l'approche humanitaire et l'approche sécuritaire, estime qu'il faut que les deux se coïncident, parce que pour l'instant ça repose des deux côtés sur beaucoup de fantasmes irréalisables. Qu'est-ce qui doit guider l'action des dirigeants aujourd'hui dans cette réflexion autour de la question des migrants, selon vous, si ce n'est pas les valeurs que vous venez de détricoter?
Encore une fois, je ne plaide pas du tout pour une vision purement cynique.
Voilà,
c'est l'absolu universaliste des valeurs qui me semble être un outil dangereux à manier, mais en deçà, il y a ces sentiments moraux qui me semblent extrêmement importants. Mais ce qui me semble...
Il est où votre pragmatisme à vous sur la question?
Il est dans le réalisme face au phénomène migratoire. Ce réalisme consiste d'une part à constater que le phénomène migratoire est inscrit depuis que l'humanité existe dans la réalité du fonctionnement des êtres humains et qu'il n'est donc pas appelé à s'arrêter. La plupart, les démographes, les historiens nous rappellent sans cesse que l'essentiel, 95-97% du phénomène migratoire se joue à l'échelon local et régional. Donc pas du tout à l'échelon international, on ne traverse pas des océans, ce ne sont pas des centaines de millions de gens qui migrent à travers les océans. Donc c'est une partie extrêmement limitée de ce phénomène, mais qui n'est pas appelée à se réduire, ça c'est l'évidence même. Avec la mondialisation, avec l'internationalisation de toutes sortes de choses, des marchandises, des valeurs, des biens, tout cela ne peut que continuer. Donc il s'agit de prendre en compte une réalité et qui peut s'articuler avec des intérêts, avec des besoins qui sont aussi existants dans l'ensemble, dans une bonne partie de l'Europe. Alors laissons de côté, il me semble de toute façon, là c'est en citoyen européen, enfin français et européen que je parle, et pas du tout en acteur humanitaire, il me semble qu'on va inévitablement revenir ou accepter, officialiser l'existence d'une Europe à plusieurs cercles, ou à plusieurs vitesses. Je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. Mais d'ailleurs, au passage, une petite parenthèse sur les valeurs. On voit bien que les valeurs brandies par cette Europe centrale, pour des raisons historiques, enfin je ne veux pas essentialiser l'Europe centrale du tout, il y a des circonstances qui expliquent cela, mais en tout cas, ces valeurs brandies, ces valeurs négatives, si l'on veut, qui sont brandies, ne correspondent pas du tout à d'autres valeurs qu'on brandit plutôt dans l'Europe occidentale, et ça s'arrête aussi à l'Angleterre, parce qu'en Angleterre, on a aussi versé dans une extrémisation de la politique, disons, Theresa May est à la tête d'un gouvernement d'extrême droite. Donc on voit qu'il y a un espace européen qui se réduit, mais c'est l'espace dans lequel tout de même une très grande vitalité, à la fois économique, intellectuelle, humaine, existe. Et donc c'est un espace qui n'est pas démuni, qui n'est pas dépourvu de force. Eh bien moi, c'est une forme de réalisme certes qui a sa dimension morale, parce qu'au fond moi je n'arrive pas vraiment à opposer le réalisme à la morale. Une morale qui serait totalement abstraite du réel ne serait pas une morale, serait simplement une pensée spéculative qui n'aurait pas grand intérêt. Et donc c'est l'articulation de ces deux que je vois.
Est-ce que vous tirez la sonnette d'alarme aujourd'hui, René Broman? Est-ce que, comme la juriste Mireille Delmas-Marty dans Le Monde, vous estimez qu'on est en état de désastre humanitaire aujourd'hui concernant l'immigration?
Désastre humanitaire, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas très bien ce que veut dire cette expression. Là aussi, ces mots me prennent un peu de cours. En tout cas, il y a une situation de crise majeure, de crise humaine, de crise politique qui m'incite effectivement à dire oui, je pense qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Oui, l'Europe est un tournant de son histoire, de sa politique, de sa morale, et il est extrêmement important d'en prendre compte.
Une dernière question de Camille Manière.
Oui, sur cette question, on a l'impression qu'on bute assez vite dans le débat sur la distinction entre migrants économiques et demandeurs d'asile légitimes, entre guillemets. Est-ce qu'on peut avancer et prendre vraiment la mesure de ces phénomènes tant qu'on reste sur cette opposition-là?
Mais, vous voyez, ces catégories existent. Il existe bien des réfugiés, disons, dans la veine de la définition classique du réfugié, une personne qui a, avec raison, à craindre pour sa sécurité, pour diverses raisons, dans son propre pays. Donc on parle des réfugiés syriens, érythréens, afghans, qui fuient des pays en guerre, ou des pays dans lesquels les persécutions politiques sont intenses et qui ont des raisons de le faire. Dans d'autres situations, au Nigeria, au Mali, au Tchad, c'est plus mêlé. Il y a un mix de raisons qui sont tantôt politiques, tantôt économiques. Donc il me semble qu'il faut, d'une part, continuer de défendre le statut de réfugié politique. C'est une question qui est en discussion dans les milieux juridiques et humanitaires. Elle est effectivement complexe, elle admet des contradictions. Mais à moi, personnellement, il me semble que on doit maintenir cette notion de réfugié politique, mais ne pas nécessairement la durcir, ne pas mettre le bon réfugié politique comme une sorte de concurrent du mauvais réfugié économique ou du mauvais migrant économique, parce que le migrant économique, il a sa raison d'être, il a des raisons à la fois profondément humaines de migrer, mais il vient aussi à la rencontre d'horizons qui peuvent être des horizons d'accueil, car le besoin des migrants existe réellement.
Merci Camille Manière pour cette dernière question et un grand merci à vous René Broman d'être passé autour de cette grande table. Merci beaucoup. Il est 13h22 sur France Culture. Tout de suite, le dernier rendez-vous du médiateur de la saison.
La grande table. Le rendez-vous du médiateur.
Place donc au rendez-vous du médiateur des antennes de Radio France, Bruno Denas, bonjour.
Bonjour Olivia Jasper, bonjour à tous.
Alors pour ce dernier rendez-vous de la saison que nous avez-vous concocté, c'est le dernier pour vous tout court Bruno?
Eh oui, on peut le dire.
Et quoi donc? Vous partez?
Et je m'en vais.
Bon, ben voilà.
J'ai un certain âge.
Il en dira peut-être plus à votre invité aujourd'hui, notre directrice Sandrine Trainer. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour Camille. Vous voulez que je pose des questions à Bruno Denas pour la dernière fois, ce qui m'évitera de répondre à ces questions?
On échange les rôles pour la dernière, ouais, ça peut être bien.
Non, j'ai tout prévu quand même.
Bon, alors, beaucoup de questions d'auditeurs, à commencer par des questions sur notre grille d'été, Bruno.
Eh oui, Sandrine, les programmes de l'été suscitent toujours pas mal de réactions des auditeurs. Les uns sont heureux de faire de belles découvertes, quand d'autres protestent contre les rediffusions. Alors, la question, allez-vous rendre les auditeurs de France Culture heureux cet été?
Vous voyez, ça veut dire que les auditeurs d'hiver et les auditeurs d'été se ressemblent, tout comme, au fond, France Culture l'été, France Culture l'hiver, je veux dire tout simplement que France Culture l'été, eh ben c'est encore France Culture. Je dirais pas que c'est France Culture en encore mieux, mais donc c'est France Culture en encore plus grand, parce qu'on considère que on a le temps. Et donc, on allonge encore la durée des formats pour proposer de grands voyages, de grands moments radiophoniques. Et cette année, les auditeurs trouveront, pour ceux qui ne nous connaissent pas, retrouveront, pour ceux qui nous connaissent déjà, cinq grands portraits en grande traversée. Il y aura Mohamed Ali, il y aura Sigmund Freud, il y aura Jeanne d'Arc, il y aura Alan Turing, il y aura Simone Veil, dans des genres extrêmement différents, mais cinq grands portraits. Comme France Culture l'été, c'est toujours France Culture. Il y aura de quoi penser. Et avec la série que nous avions initiée l'année dernière, des avoir raison avec, c'est-à-dire des grands penseurs qui resurgissent aujourd'hui parce qu'ils nous aident à penser le monde contemporain. Il y aura de nouvelles voix à l'antenne de France Culture. Alain Prochian, administrateur du Collège de France, Nathalie Azoulay, Fabrice Midal. Et puis, il y aura évidemment les grands rendez-vous en public, le Festival d'Avignon, où nous nous installerons pendant 10 jours, quelques grands moments, une adaptation de Gatsby le Magnifique, Gatsby, ah oui, avec le rappeur Sofiane dans le rôle de Gatsby. Et puis, prenons un exemple, il y aura Samy Frey qui viendra nous lire du Beckett, ou encore Isabelle Adjani et Lambert Wilson qui interpréteront des extraits de la correspondance entre Albert Camus et Maria Cazares. Et puis, il y aura des voix que vous connaissez déjà. Et par exemple, est-ce que vous savez ce que devient Olivia Gesbert pendant la première quinzaine de juillet?
Elle sera rediffusée à 7h du matin.
Eh bien non. Non.
Qu'est-ce qu'elle devient?
Eh bien, elle devient la matinalière de l'été. Nous commencerons l'été le matin avec Olivia Gesbert. Et puis ensuite, c'est Julie Gacon qui prendra le relais jusqu'au retour après les vacances de Guillaume Herner. Donc, des voix connues dans les magazines en direct. Et puis, des grands moments. J'aurais pu citer évidemment les masterclass. Vous savez, notre grande collection de masterclass.
Bon,
c'est de
citer.
Nouveau 4. Non, j'en cite pas un seul. Si ce n'est qu'il y aura 40 artistes tous les jours à 11h du matin à l'antenne de France Culture, cet exercice des masterclass que nous menons avec Arnaud Laporte.
C'est plutôt riche et Olivia va donc se lever très
tôt. Ça va être formidable.
Mais alors justement, en deux mots, comment ça se conçoit une grille d'été par rapport à une grille, j'allais dire, classique, normale de l'année? C'est plus compliqué, c'est
ça
plus simple.
Ça se conçoit dans la logique des éléments qui composent l'identité de notre antenne toute l'année, c'est-à-dire cet équilibre entre les idées, les savoirs, la création, et puis en se donnant peut-être de la liberté en plus. C'est un travail d'un an, hein. On commence à fabriquer la grille d'été en octobre-novembre de l'année qui précède l'été. C'est un long travail, vous savez, on va avoir par exemple un grand feuilleton documentaire mené par Michel Pomarette, 40 fois 10 minutes sur les derniers chasseurs de nazis. Il a fait le tour du monde, il est allé en Amérique latine, il est allé en Israël, il est allé en Europe, en Allemagne, en Nouvelle-Zélande, et il nous ramène un grand feuilleton qui est à la fois une enquête historique et une enquête contemporaine.
Alors, on va changer de sujet parce que la semaine dernière était annoncé un média social culturel commun aux chaînes du service public piloté par France Culture. Démarrage prévu à la fin du mois sur les réseaux sociaux. Mais pour Julien, un auditeur, si je comprends bien, ce sera du recyclage d'émissions anciennes.
Non, alors d'abord, il n'est pas piloté par France Culture, il est copiloté par Michel Field à France Télévisions et moi directrice de France Culture. Non, mais en tant que Radio France, puisqu'il y aura aussi des programmes de France Inter et de France Musique. C'est pas du tout des émissions anciennes d'aucune façon, non, c'est une production tout à fait native de vidéos culturelles venues de l'ensemble des antennes du service public.
Alors il y a d'autres auditeurs qui disent que c'est de la vidéo, or France Culture fait de la radio.
Oh non, France Culture fait des tas d'autres choses, France Culture fait une revue, regardez le numéro de papier vient de sortir, France Culture fait des podcasts, France Culture fait depuis un certain temps des collections de vidéos et de programmes numériques et d'articles sur les réseaux sociaux, donc oui, à partir du socle des programmes de France Culture, on peut faire des tas de choses et aussi de la vidéo, notre manière.
Alors justement, France Culture est en quête de nouveaux publics et ça marche. Cette année, ça a vraiment été une année exceptionnelle, notamment en termes de médias global.
Ouais. Oui, c'est une année où nous avons considérablement rajeuni notre audience. C'est important parce que nous devons être un service public pour tous et donc amener vers nous, évidemment, toutes les générations et tous les types de publics.
Alors, comme ce rendez-vous du médiateur, comme le disait Olivia, le tout dernier pour moi, mais il se poursuivra à la rentrée avec ma ou mon successeur. Sandrine Trainer, pour vous, quelle est l'utilité du médiateur? Il faut reconnaître que de temps en temps, bon, ça fait pas toujours très plaisir, mais on me dit le médiateur est inutile. Certains auditeurs m'écrivent ça.
Ben vous voyez, il n'y a pas que vous qui êtes, que moi qui suis prise à partie, vous aussi.
Et
non,
oui,
écoutez,
arrive.
je crois que d'abord, je voudrais vous rendre hommage. Je voudrais dire à quel point vous avez donné du sens à cette fonction, comment vous l'avez développée, le travail extrêmement exigeant que vous avez à l'égard de nous, directrice et directeur d'antenne. Je veux dire, ce sont tous les jours des échanges par mail. Vous nous avez appelé, appris à répondre à chacun des auditeurs. Et aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Vous avez vraiment développé ce lien de manière considérable. Je pense que ce lien aujourd'hui est essentiel. Ce lien entre une entreprise de service public comme la nôtre et le public et les auditeurs.
Sont notre base, d'ailleurs,
c'est
du travail.
Évident. Voilà. Et que le centre de la mission du médiateur, elle est là. Le lien, faire passer des messages. Les auditeurs savent pas, mais enfin tous les week-ends, vous nous envoyez un mail récapitulant les grandes tendances, les grands problèmes qui ont surgi sur les antennes. C'est évidemment aussi un lieu d'apaisement des conflits. C'est très important.
D'ailleurs, Bruno, j'ai fait un après-queue plus un, en oubliant l'indicatif tout à l'heure. Vous risquez de recevoir quelques mails.
Et d'ailleurs, j'ai réalisé c'est en moi, disant... Olivia, qui vais écrire.
Bon, en tout cas, merci Sandrine Trainer, donc directrice de France Culture, pour toutes ces précisions, pour ce petit hommage, et puis merci en effet pour l'écoute que vous avez pour les auditeurs, évidemment pour le médiateur par intermédiaire, pour les auditeurs par intermédiaire du médiateur. Je tiens aussi à remercier particulièrement les productrices et les producteurs, de même que la direction de la rédaction, qui ont toujours accepté de venir vous répondre, à vous les auditeurs, qui sont vraiment des auditeurs très fidèles de France Culture, et que j'en profite pour les saluer chaleureusement. Merci aussi Olivia de m'avoir accueilli avec gentillesse toutes les deux semaines dans votre émission et d'avoir parfois réclamé des petites minutes supplémentaires.
C'est vous qui les réclamez.
Ouais,
c'est
moi
qui les réclame. On les a parfois accordés.
Mais oui, aujourd'hui, super, c'est gentil. Merci
mais si
beaucoup.
Je peux me permettre juste Dallas, un mot, non, c'est pas un petit hommage, c'est un vrai hommage appuyé au travail que vous avez fait.
C'est gentil.
Merci
beaucoup. Et avec vos équipes. Merci beaucoup, Bruno Donas. Du coup, les auditeurs peuvent quand même continuer à écrire ou pas sur le site
Bien sûr,
ou c'est la trêve estivale aussi pour les critiques positives.
31 juillet même.
31 juillet. Le site médiateur.fr. Radiofrance.fr. Merci beaucoup à vous Bruno Donas et très belle continuation. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table en quelques noms. Claire Maillot et Clémence Marie, Maxime Morin et Henri Leblanc à la réalisation aujourd'hui Perret Legras avec Audrey Guélil. Très bel après-midi à tous sur France Culture.